quartier général. Une division de sur-le-banc.ca.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce cinquième épisode d'Au quartier général. Donc aujourd'hui, on revient sur le premier quart de la saison de hockey, donc de la Ligue nationale de hockey. J'ai en ma compagnie Simon Duclos, Hugo Reich et Éloi Fournier. Ça va bien les boys?
Ça va bien toi?
Ben oui, donc je me présente moi-même Nicolas Pereira. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler du premier quart de saison qui nous a offert des surprises si on veut. Il y a eu quand même plusieurs équipes qui ont eu des niveaux de jeu, qui ont offert du niveau de jeu qu'on ne s'attendait pas. Ouais. D'autres que ça a été plus difficile par contre dans leur cas. Donc, je crois que la plupart d'entre vous, les boys, vous avez vu justement les Devils du New Jersey comme la plus grosse surprise.
Effectivement.
Si je peux commencer ça.
Mais vas-y.
effectivement, les Devils du New Jersey qui sont 7e présentement dans le classement général de la Ligue nationale. Avec 12 victoires, 5 défaites et 4 défaites en temps supplémentaire, 28 points en banque. Cause à surprise, je crois, avec des jeunes joueurs comme les Zaka, les Ishier, les Butcher, qui justement prennent la relève, ça fait en sorte qu'ils sont dans un autre stade, je crois, une certaine évolution de leur système de jeu. Ça fait en sorte qu'ils sont là où ils sont en ce moment.
Il faut noter aussi que durant l'entre-saison, le directeur général a fait beaucoup de mouvements pour aller chercher justement du personnel pour augmenter le niveau de jeu des Devils. On a vu justement avec Marcus Johansson qui est arrivé dans l'équipe. On vous parlait justement de Will Butcher qui est aussi arrivé, qui a fait du changement. Moi, de mon côté, je trouve qu'il y a aussi Las Vegas qu'il ne faut pas oublier, qui surprend, un, parce que justement c'est une équipe qui n'existait pas jusqu'à l'année dernière, donc qui ont vraiment bâti de A à Z. Et en plus, c'est qu'on est rendu au quatrième gardien, Maxime Lagacé, qui garde des buts encore présentement.
En ce moment, 3 victoires d'affilée,
il
faut le rappeler.
Il fait quand même le travail. Donc, mention honorable aussi aux Golden Knights de Las Vegas. Côté déception, bon, évidemment, le Canadien, je crois que pour tout le monde, c'en est une. Quoi qu'on s'attendait quand même à une saison plus difficile de leur part.
Oui.
Par contre, la plupart d'entre nous, on y va vraiment avec les Oilers, je crois, donc qui ont déçu.
Ben, c'est un peu évident, je dirais, à ce niveau-là, parce que, bon, ben, on a la plus grosse vedette de la Ligue nationale qui est censée être le prochain, si vous me permettez, Wayne Gretzky de la Ligue, hein, qu'on a un McDavid. Donc, à ce niveau-là. Et en ce moment, McDavid ne joue pas mal.
Non,
il a encore une excellente saison, un des meilleurs pointeurs de la Ligue. Ben en fait, c'est là qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça va prendre de plus aux Oilers? Parce que là, s'ils finissent encore au bas du classement, est-ce que ça peut être encore un excellent repêchage pour eux?
C'est sûr, ça peut être encore le cas. Je sais que toi, Hugo, de ton côté, tu as écrit un texte dernièrement justement sur les Oilers. Ouais. Comme quoi, c'était peut-être une année, en fait, une bonne année parmi tant d'autres, mais que les Oilers vont peut-être retrouver les bas-fonds pour encore quelques temps.
Oui, ben exactement. Comme je dis dans mon article, qui est intitulé « Trop beau pour être vrai », est-ce qu'il s'agit d'un mirage à la saison passée où les Oilers se sont rendus en deuxième ronde, avaient une contribution collective, notamment
Patrick Maroon,
qui a obtenu le Bill Masterton cette année-là. Cam Talbot, qui est au rendez-vous maintenant. Cam Talbot affiche des statistiques plutôt ordinaires. 3,19 de moyenne de buts alloués. On parle d'une fiche de 7 victoires, 10 défaites. Alors, 12 défaites, pardon. Alors, en prenant tout ça en considération, c'est sûr et certain que les Oilers ne sont pas là où ils sont supposés être. Encore une fois, je regarde la fiche de Connor McDavid. On parle de 28 points en 22 matchs.
Ce qui est excellent.
Ce qui est excellent.
À ce niveau-là.
Sauf que les Oilers, peut-être qu'ils devraient se concentrer sur la défensive. Ben, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec
c'est
moi.
C'est ça. Et si on finit encore en bas de classement, est-ce que Darlin peut s'en aller lui
Darlin
aussi?
Exactement.
Darlin for Darlin.
Darlin on le dit.
Que, oui, les Oilers, ils ont aussi leurs premiers autres défenseurs qui ont de la misère. Adam Larson et Oscar Klefbom qui sont tous dans les moins, les deux. Donc, ça n'aide pas non plus. Là. Ces deux défenseurs qui étaient très solides l'an dernier puis qui, cette année, ont beaucoup de difficultés.
Et on l'a vu souvent, justement, au repêchage dans les dernières années, les Oilers, ils vont toujours pour le meilleur joueur disponible. À chaque fois, c'était un attaquant. Là, exemple, cette année, je vous donne le choix. Vous êtes directeur général des Oilers. Le meilleur joueur disponible est un attaquant. Allez-vous chercher un nouvel attaquant ou quand même un défenseur?
C'est évident que je vais chercher un défenseur. Je veux dire, t'as déjà l'étoile de la Ligue en Connor McDavid qui, juste lui, change le match au niveau offensif de manière absolue. On a vu avec, justement, Patrick Maroon qui a explosé parce que McDavid faisait les choses qu'il avait à faire pour le faire contribuer sur la fiche de pointage. Ça a été la même chose à un moment avec Eberle. Quand il était là, Eberle a explosé. Puis je pense que ce qui manque aux Oilers, pourquoi ils sont en bas de classement, c'est parce que justement, comme Éloi l'a dit, on a des défenseurs qui font beaucoup de revirements, qui sont dans le négatif en ce moment sur leur fiche personnelle, et c'est ça qui fait mal à l'équipe.
De ton côté, là, toi, tu penses surtout aux Capitals quand on pense de déception cette année.
Oui, ben les Capitals aussi, qu'on voit souvent trôner au-dessus du classement de l'Association Est, cette année, ils sont à peine en position de faire les séries en ce moment. Ils sont seulement à un point là, devant les Rangers pour la dernière place en série éliminatoire. Puis c'est ça, offensivement, d'habitude, c'est une grosse puissance, cette équipe-là, mais on dirait qu'eux aussi manquent de profondeur. Mm-hmm. Donc derrière Ovechkin, Kuznetsov, Oshie, tout ça, il n'y a personne qui est en haut de 6 buts. Donc,
Il y a Ovechkin qui a complètement explosé en début de saison.
Il a 14 buts déjà.
Un petit peu ridicule à ce niveau-là, mais bon, évidemment, on s'attendait à ce que ça se calme et que ça ne soit pas comme ça toute la saison. En tout cas, on l'espérait pour les équipes qui allaient affronter les Capitals et Ovechkin. Et ben, c'est ça qui se passe. On a un ralentissement au niveau de l'offensive des Capitals et ça paye.
Tu parles d'un manque de profondeur, justement. On parlait de Marcus Johansson tantôt. Les Capitals l'ont laissé partir, notamment vu un manque d'espace sur le plafond salarial. Ça, c'est des décisions qui vont faire mal à l'équipe dans les prochaines années aussi. Là.
Oui, parce qu'on a bâti l'équipe pour gagner maintenant. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, un peu comme à Montréal, malheureusement, dans les dernières années. Mais donc, à Washington, on n'a pas réussi à se rendre loin en série. Puis aujourd'hui, ben, on va payer le prix là, dans les prochaines années, tout comme les Rangers également. Quand tu construis une équipe, ça fait toujours des hauts et des bas. Puis, à un moment donné, les Capitals sont en haut depuis très longtemps. Ils vont finir par redescendre, puis ça va faire mal.
Pensez-vous que la perte de Marcus Johansson a un impact sur les performances des Capitals?
Selon moi, c'est sûr. Là, on se retrouve avec un bon premier trio. Bon, évidemment, Kuznetsov et Backstrom, les deux peuvent jouer à la position de centre. Donc, ça fait deux bons premiers centres. On sait que Backstrom, par contre, l'an prochain, risque de partir, vu le peu d'espace sur le plafond salarial de l'équipe. C'est sûr que dans les prochaines années, ça va leur faire mal, mais ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient justement pouvoir être sous le plafond pour cette année.
Ouais, écoute, je regarde ça en ce moment. La saison dernière, en fait, quand justement il était avec les Capitals, c'est quand même un marqueur de près de 60 points avec 58 points en 82 matchs.
Effectivement.
C'est une contribution qui est
plus une très grosse contribution, exact.
Ouais. Sinon aussi, également, on le voit, on parle là, des équipes qui déçoivent. Il y en a aussi d'autres. On peut penser aux Sharks, aux Blackhawks, qui ne sont pas en série présentement. Bon, sont à quelques points des séries, donc c'est encore possible de remonter. Voyez-vous un changement de tendance dans la Ligue nationale? On parle de, justement des Devils de Las Vegas.
Ben même les Rangers.
Les Rangers, c'est difficile aussi pour eux. Mais on voit plusieurs équipes, les Jets de Winnipeg aussi, qui surprennent dans les dernières années, les Maple Leafs aussi. Pensez-vous que c'est un changement de tendance ou c'est simplement qu'on a besoin maintenant de toujours reconstruire pour être dans les sommets? On pense justement à Maple Leafs, Jets et autres qui ont passé des années dans les bas-fonds pour cette année dominer la Ligue nationale.
Oui, bien effectivement, c'est sûr que la reconstruction est toujours une option, je crois, pour une organisation. Seulement si la base de vétérans est très performante malgré l'âge, l'équipe pourrait garder une certaine performance, un certain succès pour se rendre loin en série malgré l'arrivée des plus jeunes. Mais si ton bagage de vétérans n'est pas aussi fort qu'escompté, c'est sûr et certain que la reconstruction a certaines années qui vont...
À ce niveau-là, parce que tu en parles, est-ce que toi, tu penses que la perte de Patrick Marleau aux Sharks, ça a eu un gros impact sur leur saison actuelle? Parce que tu parles de la place des vétérans dans une équipe.
Oui, définitivement.
On a perdu un joueur qui a passé l'entièreté de sa carrière là-bas.
Oui.
Donc,
non, effectivement, c'est sûr que la perte de Patrick Marleau à San Jose est très, très énorme. On parle justement d'un vétéran qui part, de l'expérience qui part, malgré que les Sharks ont beaucoup de vétérans dans leur équipe. C'est le fun toujours avoir le plus de vétérans pour les jeunes. Et ça a été une situation gagnante pour les Maple Leafs qui, eux, justement, avec l'apport de Marleau, les jeunes comme Matthews, Nylander, Marner ont un exemple à suivre, un cadre en tant que joueur d'expérience.
Et là, tu parles justement de Marleau qui les aide. Par contre, il faut penser aussi que maintenant, la fenêtre de possibilité de gagner la Coupe Stanley se réduit peu à peu. Là, tu parles de Marleau. Dans 2 ans, Marleau va être encore sous contrat avec les Maple Leafs pour un salaire de près de 7 à 8 millions. Par contre, on va avoir à re-signer Austin Matthews, à re-signer William Nylander, re-signer Mitch Marner. Mm-hmm. Ça va faire beaucoup de gros contrats à rajouter.
Effectivement. Il faut que ça se fasse d'ici les 2 prochaines années.
Ouais, lui, la Mangala a beaucoup de pain sur la planche.
Et c'est le même problème présentement. On en parle peu parce que cette année, c'est pas un problème. Mais les Oilers d'Edmonton, l'an prochain, oui, on dit qu'ils doivent travailler pour aller chercher des défenseurs. On parle d'environ 13 millions d'espace, seulement 13 joueurs signés pour qui sont prêts pour la Ligue nationale pour la prochaine saison. On va dire qu'on ajoute quelques recrues à ça. On va peut-être rentrer à 17-18, mais il manque encore des joueurs pour l'alignement.
Ouais.
Connor McDavid, son gros contrat va rentrer. Drysdale, a déjà son contrat.
Exact.
Ça risque d'être difficile pour les prochaines années. Canadien, dans tout ça, on est-tu avantagé d'avoir de la place sous le plafond?
Ben moi, je pense... Écoute, moi, je pense que oui, parce que ça te permet d'aller chercher une ou des pièces manquantes. Là, tantôt, on a une transaction, un petit mouvement du côté de Marc Bergevin. On a échangé
Mitchell
contre un 5e choix conditionnel, si je ne me trompe pas.
Oui, exact.
Donc, ça prend plus qu'un cinquième choix conditionnel, ouais, évidemment. Et c'est ça que l'espace sur la marche arrière te permet de faire. Moi, je pense que c'est définitif. Encore là, c'est comment tu joues tes pions et comment tu utilises ce que tu as disponible sur ta marche arrière qui fait la différence.
Oui, ouais, exactement. Et Torrey Mitchell veut pas, empêchait pas un gros salaire, mais c'est de l'espace de plus sur la masse des Canadiens de Montréal. C'est sûr et certain qu'on pourrait aller chercher un joueur d'impact sur ton défensif qui n'arrache présentement.
Oui.
Oui, ben c'est, du côté du Canadien, le problème, c'est qu'on est bien loin de faire les séries. Donc, on va être, ouais, vendeur cette année. On a beaucoup d'espace sous la masse salariale. On en aura certainement plus à la fin de la saison lorsqu'on aura échangé certaines pièces de l'alignement. Il y a quelques années, on avait échangé Dale Weiss, Thomas Fleischmann, ouais, René Bourque, toutes sortes de joueurs comme ça pour essayer justement de reconstruire partiellement l'équipe. Puis c'est ce qu'on appelle une reconstruction accélérée, si vous voulez. Donc, on fait l'acquisition de plus de jeunes pour appuyer certains vétérans. Puis je pense que c'est ça qu'on va faire du côté de Montréal. Je pense pas qu'on va acquérir des joueurs cette saison ou même l'an prochain, mais on va plutôt essayer de construire à long terme.
Et là, tu parles de reconstruction rapide. Penses-tu que ça peut fonctionner dans la nouvelle Ligue nationale de hockey?
Une reconstruction rapide, mais il faut faire une reconstruction. On peut pas seulement faire comme Glenn Sather essayait de faire pendant tellement d'années, ou comme les Canucks voulaient faire aussi après leur finale de la Coupe Stanley, en essayant de signer plein de vétérans comme Louis Erickson puis tout ça pour essayer de rester valide en série. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut absolument aller chercher le plus de jeunes possible. C'est une ligue axée sur la jeunesse.
Ouais, exact. Puis parce que tu en parles, pour les Canucks, en ce moment, le meilleur joueur, je dirais, j'en parle souvent, là, c'est Bowser. Écoute, c'est incroyable, ce jeune-là. J'ai pas les statistiques devant moi, mais je sais que, si je me trompe pas, il est près de un peu plus d'une dizaine de buts déjà. Donc, et c'est sa saison recrue. Donc,
exact. Mais les recrues des Canucks prennent de l'ampleur davantage. Bo Horvat aussi, qui a connu une très bonne saison l'année dernière, va continuer sur sa lancée.
C'est ça qu'il leur faut.
Et on en parle justement, des Canucks, présentement, ont une fiche pour faire les séries. Donc, on voit déjà un changement qui se fait peu à peu de ce côté-là aussi.
Mais exact.
On peut penser aux Flames de Calgary, que c'est le cas aussi. Peut-être la petite exception, les Kings de Los Angeles, qui misent encore sur un noyau qui est un petit peu plus vieux. Pensez-vous qu'ils sont capables de rester dans les sommets durant toute la saison?
Je crois que oui. Je crois que les Kings de Los Angeles ont quand même un bon bagage d'expérience, encore une fois. Malgré l'âge qui commence à les rattraper peu à peu, les joueurs qu'ils ont dans leur alignement sont très talentueux. C'est sûr et certain que ça paraît. Là. C'est sûr qu'il y avait une baisse de régime l'année passée. Mais là, ils sont revenus dans le top 10, oui. Ils sont 10e dans le classement général. Ils devraient continuer sur leur lancée.
Ouais. D'habitude, les joueurs perdent pas tant d'efficacité avant d'avoir 32 ans. Mais une fois que tu arrives à 32, c'est là que tes statistiques commencent peu à peu à décliner. On a vu Guy Lafleur faire ça d'ailleurs plus dramatiquement, mais il y a des exemples qui sont moins drastiques, si vous voulez. Puis donc, les Kings sont construits encore pour pouvoir faire les séries cette année, peut-être l'année prochaine. Puis ensuite, on va devoir aller chercher plus de jeunes parce que là, on a le même noyau depuis plusieurs années.
Oui. Donc, selon toi, à ce moment-là, c'est leur fenêtre pour l'emporter sont vraiment dans 2 ans à ce moment-là.
C'est bon, je dis que ça se ferme en ce moment. Puis qu'ils peuvent gagner cette année, peut-être l'an prochain. Après, c'est fini.
Et je dirais, les Kings de Los Angeles, bon, c'est sûr, peut-être un exemple plus avec un plus de talent que le Canadien. Mais ont un peu le même problème. Donc, ils ont des joueurs avec des contrats à long terme, justement Doughty, Quick et autres, Kopitar même également.
Mm-hmm, exact.
Pensez-vous que justement à long terme, ça va nuire à l'équipe?
On va voir. On va voir, je crois. Non, en fait, c'est ambigu comme situation.
Oui, parce que tu te rappelles qu'il n'y a pas si longtemps, c'était eux et les Blackhawks.
Exact.
À tour de rôle.
Exact, ouais, exact. Carrément. Ça n'arrêtait pas. Alors, oui, c'est sûr et certain que ça va avoir un impact, je crois. Mais encore une fois, On va tout voir avec le futur, mais comme Noël l'a dit, c'est les deux prochaines années, je crois que les années culminantes. Là,
en tout cas, pour beaucoup d'équipes.
Ouais. Parce que là, il leur reste plusieurs joueurs qui ont à peu près 30 ans. Kopitar, 30 ans maintenant. Bon, Gaboric a plus que ça. Mais Jeff Carter, 32. Dustin Brown aussi. Donc, c'est vraiment des joueurs qui sont pas mal dans leur dernier mille en termes d'efficacité, puis qui vont commencer à baisser leur production.
Exact.
Et là, on parle justement des équipes, mais les joueurs, comme on dit, c'est de plus en plus axé sur la jeunesse. On voit un certain changement dans le tableau des meilleurs pointeurs de la Ligue depuis le début de la saison. On peut penser justement, Stamkos, Kucherov, qui joue très bien avec le Lightning présentement, Johnny Gaudreau, Jaden Schwartz, Brendan Shen, des noms qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir dans le top 10. Quel joueur, selon vous, est la surprise cette année, autant en offensive qu'en défensive présentement?
Je crois, pour mon cas, c'est Josh Bailey, Brendan Shen. Josh Bailey qui a été un joueur constant, mais a maintenant 26 points en 21 parties, ce qui est quand même assez remarquable. Et Brendan Shen, on le sait, il a joué avec les Flyers de Philadelphie, il avait du talent. Tout le monde disait qu'il avait du talent. Et là, met son talent sur la glace en formant un trio avec Jalen Schwartz et Vladimir Tarasenko. On s'entend que c'est très productif, mais à 30 points en 22 parties, c'est assez surprenant.
Et là, justement, tu parles qu'il y avait de l'espoir chez les Flyers avec lui. Les Flyers ont une très bonne ligne de centre. Justement, Simon, je crois que toi, ton choix est l'un d'entre eux.
Oui, bien évidemment, moi, j'ai été avec Sean Couturier. Parce que je dirais depuis, si je ne me trompe pas, surtout l'année dernière, en fait, que ça a commencé. Juste avant l'année dernière, en fait, en 66 matchs, il avait récolté 34 points, ce qui est correct, pas si mal dans son cas. Et cette année, 23 points en 22 matchs.
Oui.
Et là, par contre, est-ce qu'il fait la différence dans son équipe? Non, parce que les Flyers, en fait, ne sont toujours pas assurés d'une place en série. Exact. Et on a des joueurs comme Voracek.
Voracek qui a 27 points présentement en 22 parties.
Oui, on a. Et Voracek qui a eu d'ailleurs une pas si bonne saison la saison dernière.
Effectivement.
À l'image des Flyers. En fait.
Ben, ouais, oui, exact, en fait. Et exact. Surtout que la saison juste avant l'année dernière, en fait, ça a été l'un des meilleurs pointeurs de la Ligue, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Donc, et je m'attendais pas à une aussi bonne production de ces trois joueurs-là. Je parle de Giroux, Voracek et Couturier jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'on dirait que je ne comprends pas parce qu'on a une offensive qui est extraordinaire, mais on est juste en haut des Canadiens de Montréal dans le classement. Donc, encore là, est-ce que c'est la défensive qui est à blâmer? Selon moi, oui. Gostisberg qui ne joue pas mal, mais qui n'est pas aussi étincelant que les deux dernières saisons. Donc, ouais.
Donc, moi, de mon côté, un joueur qui surprend, je trouve, ben, pas nécessairement qui surprend, on s'attend à des performances comme ça de sa part, mais c'est Johnny Gaudreau. Gaudreau qui n'a pas, exemple, l'avantage des joueurs que vous nommiez, justement, des Blues de Saint-Louis, qui forment un trio, justement, qui ont un excellent trio offensif. Oui, il y a des bons joueurs à ses côtés, mais je dirais qu'il se démarque vraiment ce début de saison. On parle de 31 points en 21 parties. Ce qui est excellent. Je dirais, il y a deux ans, il avait obtenu 78 points. On avait déjà une belle image de ce qu'il pouvait donner dans le futur. L'an dernier, on a été un peu ennuyé par les blessures. Mais ouais. Je dirais, si Johnny Gaudreau poursuit sur sa lancée, c'est sûr qu'il est le futur en fait, des Flames en ce moment.
On parlait
beaucoup de Sean Monahan quand il a été repêché, mais là, Johnny Gaudreau est en train de prendre sa place comme vraiment le meilleur joueur de l'équipe.
Moi, je dirais que dans le cas de Couturier, pour revenir un peu à ce que je disais, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est toujours dans l'ombre, qui là commence à en sortir. Est-ce que c'est pas la même chose un peu avec Gaudreau dans le sens où on voit il est toujours parmi les tops, mais j'ai l'impression que quand on regarde les Flyers, les comptes qu'on voit justement, c'est Monahan qui là tranquillement est en train de se faire tasser.
Ben, je dirais, on dirait qu'on est un peu dans l'air après déjà. C'est un peu tôt pour le dire, là, mais après les Ovechkin, Malkin, Crosby, tout ça.
Oui.
On a des nouvelles vedettes qui commencent à arriver.
T'as amplement raison de dire ça, Nick. Justement, Johnny Gaudreau, on le voit, va être la pièce maîtresse, probablement un futur capitaine. Je fais des grosses prédictions en ce moment, mais probablement un futur capitaine des Flames de Calgary est un joueur clé là, chez les Flames. Et si on peut avoir deux joueurs en Monahan et Gaudreau qui sont sur la même longueur d'onde et qui produisent au même rythme, c'est un plus pour les Flames. Alors, c'est sûr et certain qu'en termes de performance, en termes de statistiques, Gaudreau l'emporte, selon moi, est un meilleur joueur plus complet. Mais les deux ensemble, c'est très dévastateur sur le même trio en plus. Alors, c'est sûr et certain que Gaudreau a plus d'importance. Selon moi, il va en prendre davantage. Monahan, par contre, est juste en arrière.
Donc, ça va quand même faire un beau duo pour la
Ligue. Oui, exactement.
Ton côté, Éloi, je pense que Jalen Schwartz est justement ton joueur, en fait.
Oui, en effet. Mais c'est ça, on parlait des Flames, puis il y a un jeune, moi, qui m'impressionne beaucoup, c'est Jaromir Jagr. 6 points en 12 matchs, il est arrivé tard cet été. Donc, c'est un jeune qui m'impressionne énormément. Ceci étant dit, oui, le joueur qui m'impressionne le plus dans ceux qui ont été nommés, c'est sans contredit Jalen Schwartz, qui était un choix de première ronde en 2010 par les Blues. Puis qui a pris du temps un peu à se développer, qui avait des bonnes statistiques, mais maintenant il y a des statistiques incroyables. Ouais. Carrément, 30 points en 22 matchs, c'est au-dessus d'un point par match, donc c'est non négligeable certainement.
Ben, c'est le premier trio en fait.
En effet, puis lui, c'est un joueur qui est rendu vraiment complet. Mike Yeo a dit ça d'ailleurs il y a quelques semaines, là, je me souviens. Puis ses statistiques sont très très bonnes, mais il fait aussi toutes les bonnes choses, offensivement, défensivement, en zone neutre, partout où tu veux. Il peut jouer sur n'importe quelle unité. Puis pour moi, c'est ça qui fait que c'est vraiment devenu l'un des meilleurs joueurs de la LNH.
Là, vous parlez justement de Sean Couturier, qui a un centre que ça a pris quelques années à se développer, qui est rendu centre numéro 1. Jalen Schwartz, même principe. Johnny Gaudreau qui a pris, bon, peut-être un peu moins de temps pour se développer, mais quand même qui a surpris plusieurs. Est-ce que justement le Canadien, on va revenir à Montréal à ce moment-là, est-ce que le Canadien... On ne blâme pas trop vite Alex Galchenyuk. On essaie de trop le pousser. Si on attend quelques temps, est-ce qu'il pourrait faire un peu comme ces joueurs-là?
Après 5
ans. C'est une question pas facile.
C'est dur à dire, mais après 5 ou 6 ans là, dans la LNH, on devrait s'attendre à un rendement continu, un rendement même en expansion pour Alex Galchenyuk qui prend davantage d'expérience dans la LNH. C'est quand même en 2012 qu'il s'est fait repêcher. Ça fait un petit bout. Exact. Et en prenant tout ça en considération, c'est vraiment difficile de parler de pression à son égard. Même si le marché de Montréal est très exigeant, selon moi, on devrait. Galchenyuk devrait être à un autre niveau présentement. Il joue un peu en deçà des attentes, mais reste un des joueurs les plus importants du Canadien.
Mais tu dis que c'est sa sixième saison. C'est sûr qu'il est arrivé à 18 ans. Faut pas l'oublier. Oui, exact. C'est arrivé très jeune. Exact. Il y a eu aussi beaucoup de fois qu'on l'a rétrogradé sur le quatrième trio, même parfois souvent sur le deuxième. Ça peut nuire au développement du joueur. Si, exemple, on le laisse à long terme un certain temps sur le premier trio, vous pensez pas qu'il peut encore se développer davantage?
Je crois que c'est une partie de confiance. Là, un joueur connaît un bas, on peut quand même lui faire confiance pour poursuivre sur sa lancée, néanmoins.
Ouais. Ce qui n'a pas aidé pour Galchenyuk, c'est qu'on l'a mis aile gauche, centre. Ouais. Après on l'a changé. Après ça, Michel Therrien a dit qu'il serait plus au centre. Puis après ça, Marc Bergevin a dit non, on va le réessayer au centre. Puis là, il ne sait plus quoi faire en défensive. Il est tout mélangé. Cette année, c'est sa première saison où est-ce qu'il peut vraiment se développer.
Ouais, et ben en fait, sa meilleure saison de son côté, c'est la saison 2015-2016 où il avait joué 82 matchs et obtenu 56 points. Ça, c'est sa meilleure production depuis qu'il est à Montréal. Et dans le cas Galchenyuk, en fait, je pense que est-ce que je me trompe de dire que ça peut être un cas psychologique? Parce que justement, comme on vient de le mentionner, il s'est fait tellement bouger aile gauche, centre, aile gauche, centre, que sincèrement, je vais le dire, je vais peut-être me faire lancer des couteaux, mais je vais le dire, je crois que la meilleure option pour qu'il atteigne son plein potentiel, et bientôt, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il devienne trop âgé non plus, ça serait peut-être de changer d'heure. Je dirais peut-être.
Si on change une transaction.
Moi, je pense que. Je dis pas que je souhaite ça, je dis pas que c'est la meilleure chose à faire pour le Canadien, mais si on parle du joueur pour le joueur dans son cas, pour sa production, je pense que le changer d'équipe, ça serait la meilleure chose qui pourrait y arriver pour qu'il atteigne son plein potentiel.
Ouais, c'est définitivement envisageable, je veux dire. Alex Galchenyuk. Et peut-être Montréal n'est peut-être pas un bon marché pour lui. On s'entend aussi, ça jouait à l'extérieur de la patinoire, je crois, avec des influences de Vante Smith-Pelly et même Nathan Beaulieu. C'est sûr et certain que faire la fête une fois de temps en temps, en fait, une fois trop, des fois, peut avoir des impacts sur son jeu.
Ben, vous savez, ses statistiques sont pas si pires que ça. Si on regarde l'an passé, 44 points en 61 matchs. Il a été blessé, mais sinon, il se serait aligné vers une autre saison d'à peu près 55-60 points. Cette année, il est un peu plus lent, peut-être. Il a 8 points en ce moment en 23 matchs.
Ben, en fait, c'est l'équipe.
L'équipe est lente aussi. Mais s'il peut avoir une bonne séquence, il va probablement finir dans la cinquantaine de points encore. Donc, je panique pas du tout avec ça. Je pense qu'il est certainement plus utile que Yakupov ou Ryan Murray qui ont été repêchés avant lui. C'est pas un flop du tout, là. Puis je pense pas que c'est un joueur qui est inutile aux Canadiens.
Non, c'est pas un flop dans cette draft-là.
Je sais pas s'il va réussir à marquer 80 points. Je pense qu'il y a peut-être le talent nécessaire offensivement.
Et quand on l'a repêché, justement, soyons honnêtes, est-ce qu'on s'attendait à ce que ça soit une certaine élite de la Ligue? Moi, je pense
c'est
que
sûr,
oui.
C'est sûr. On est
à Montréal.
On est à Montréal et en plus, c'est un troisième choix au total. C'est sûr, c'était une draft, par contre, qui était peut-être moins forte que les années précédentes et les années suivantes. Mais quand même, comme tu dis, Éloi, l'an dernier, a connu quand même une très bonne saison. Il ne faut pas oublier qu'il était troisième pointeur de la Ligue avant sa blessure l'an dernier contre les Kings.
Exact.
À son retour, on l'a fait jouer souvent sur le quatrième trio. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour lancer la serviette, surtout si on l'échange présentement. Contre quoi on l'échange?
Exact.
C'est la question.
Sa valeur est...
La valeur est au plus bas. Ouais. Il n'est pas nécessairement intéressant de l'échanger, surtout pour ce qu'on va avoir en retour. Et on sait qu'il y a le talent naturel, le faire produire, le laisser aller ailleurs pour qu'il produise ailleurs. Ça pourrait
poser problème. Non, ben c'est ça. Comme j'ai dit, je vais le redire pour que ça soit clair, mais c'est... Si on parle du joueur pour le joueur, je pense que... Écoute, si on était dans la peau d'Alex Galchenyuk en ce moment, si je veux produire à mon maximum et peut-être atteindre le 60-65 points, ça serait d'aller ailleurs. Mais je suis totalement conscient que sa valeur monétaire n'est pas là en ce moment et que si on l'échange ailleurs, ben justement, s'il devient plus productif, ça nous retombe dessus.
C'est une question d'attente aussi. Alex Galchenyuk qui avait beaucoup de pression dès son entrée en LNH. Si je prends sa dernière année junior, on parle de 61 points en 33 parties. S'il ne s'était pas blessé pour le restant de l'année en Ligue de l'Ontario, il serait probablement le premier choix total du repêchage de 2012 devant Yakupov et Murray. Justement, alors, c'est sûr que la pression d'être ce numéro 1 au total. On le sait, Yakupov l'a vécu. Et ça pour a pas ça bien qu'il tourné. Était considéré non. comme un flop, justement. Il y avait tellement de pression sur lui, les performances n'étaient pas là. Il a fait deux équipes après. Maintenant, il est un peu plus stable avec l'Avalanche, mais encore.
Et ça commence.
Exact, ça commence. Ouais. Ça commence.
Et je dirais aussi, côté d'Alex Galchenyuk, ce qu'il faut penser, c'est que malgré tout, c'est quand même le Canadien. On n'a pas connu une des grosses saisons du côté de Montréal. Oui, c'est sûr, non, c'est le premier centre souvent qu'on espère, donc on veut le voir produire. Mais l'équipe autour influence beaucoup les statistiques, genre, niveau points et tout ça. Donc, il faut avoir une équipe qui peut l'aider à aller plus loin. Passons justement à vos trophées après ce premier quart de saison. Donc, on va commencer justement. Trophée Hart, Hugo, de ton côté.
Oh, moi, c'est simple. Moi, selon moi, le Lightning de Tampa Bay est probablement la meilleure équipe et va rester la meilleure équipe de la Ligue, de la manière qu'ils sont partis. Et selon moi, le trophée Hart revient à soit Nikita Kucherov ou Steven Stamkos. On parle de 36 et 33 points en une vingtaine de parties. Les deux sont vraiment sur la même lignée. Là, ils sont forts à chaque partie. Ils donnent leur 110% sur la patinoire. Et des joueurs comme ça, quand ils ne sont pas blessés, c'est dévastateur. Là, on pense à Crosby, on pense à Ovechkin. Lors de leur début, c'est un peu la même chose. Alors, je verrais pas pourquoi le trophée Hart irait pas à soi à Stamkos ou Kucherov.
Ma question à ton endroit pour notre épisode justement de moitié de saison, penses-tu que Stamkos va être encore en santé?
je pense que oui, je l'espère pour le Lightning, mais je crois que sa physio a fait de la job.
Ouais. Écoute, plus que la job.
Oui.
c'est le meilleur pointeur de la ligue.
De ton côté, Éloi.
Oui, c'est ça. Ben, Stamkos, dans le fond, il était blessé en 2016-17. Il était blessé une fois en série, mais sinon, il n'a pas été blessé tant que ça dans sa carrière. Donc, les chances sont qu'il ne soit pas si blessé que ça. Personnellement, c'est lui que je vois comme Trophée Hart. Il a déjà 36 points en 21 matchs. C'est presque 2 points par match. C'est loin pas mal devant tout le monde dans la LNH en ce moment. Puis oui, il joue avec Kucherov, ça aide. Mais ils ont tellement une belle chimie, puis c'est en partie justement à cause de Stamkos.
Mais Kucherov, là, souvenez-vous, en tout cas, à mon sens propre, du moins, il est un peu apparu de nulle part, Kucherov. On n'avait jamais vraiment entendu son nom jusqu'à temps que Tampa Bay se rende en série. Justement, je ne me trompe pas, c'était contre les Rangers. Et il avait complètement explosé. Et c'est là qu'on a vu l'étoile Kucherov sortir de n'importe où.
On a des bons dépisteurs à Tampa.
Oui, effectivement. Ouais.
Et je tiens à le rappeler aussi, on pensait que Steven Andrigetto, du duo Kucherov-Andrigetto qui était à Rouyn-Noranda, on pensait qu'Andrigetto serait le meilleur dans la Ligue. Mm-hmm. Donc, jusqu'à maintenant, Kucherov nous prouve le contraire. De ton côté, Simon, je crois que tu vas suivre la tendance avec Stamkos.
Évidemment, j'ai suivi la tendance avec Stamkos pour évidemment les mêmes raisons que mes collègues. Moi, je pense que Stamkos, j'ai l'impression que, encore une fois, je l'ai dit tantôt, je vais le réutiliser maintenant, il est tombé un peu dans l'ombre justement à cause de ses blessures et j'ai l'impression qu'on avait oublié à quel point il était dominant. Parce que là, il est dominant, comme tu l'as dit, presque 2 points par match. J'ai l'impression que, du moins avant que McDavid arrive dans la Ligue, donc à peu près le même temps où il était blessé, il y a eu un regain du côté de Crosby. Justement, c'était Crosby qu'on voyait comme l'étoile. Ben, je veux dire, c'est encore un peu tôt aujourd'hui. Mais du moins, cette saison-là, il explose. Il est en train de nous prouver que c'est lui l'étoile de la Ligue, du moins maintenant, là.
Ah, définitivement un joueur d'impact, ça c'est clair.
Moi, je dirais de mon côté, je vais poursuivre sur mon joueur qui me surprend le plus depuis le début de la saison. J'irai avec Johnny Gaudreau. Tout dépendant évidemment si les Flames font les séries. S'ils font les séries, selon moi, la différence entre Gaudreau et justement Stamkos et autres, pour moi, le trophée Hart va aller au joueur vraiment qui va avoir aidé son équipe le plus possible. C'est sûr, Stamkos, avec ses nombreux points, l'aide beaucoup. Mais on s'entend, le reste de l'équipe à Tampa Bay est quand même une très bonne formation. Donc, on pourrait très bien se débrouiller, on l'a vu dans les dernières années, se débrouiller bien sans Stamkos. Donc, pour ça, moi j'irais avec Gaudreau de ce côté-là. Sinon, trophée Norris en défense, Simon.
Ben moi, écoute, évidemment, j'ai été avec un choix, je pense, je dirais normal. J'y étais avec le Suédois, Erik Karlsson. Parce que, bon, en ce moment, écoute, c'est 17 points en 15 matchs. C'est plus d'un point par match, évidemment. Et ben, c'est ce à quoi tu t'attends, en fait, d'Erik Karlsson. La saison dernière, je me souviens, il y avait une excellente saison, mais un petit peu en dépit des attentes. Mm-hmm. J'ai l'impression que du côté d'Erik Karlsson, on s'attend vraiment à ce qu'il atteigne le point par match pendant toute la saison. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, mais je sais qu'en ce moment, c'est pas lui qui est en tête pour le trophée Norris, si je me trompe pas. Est-ce que c'est Pietrangelo?
Oui, mais ben en fait, je crois que nous sommes 3-1, Simon, bon, donc les trois, on a opté pour,
Pietrangelo. Mais, écoute, oui, moi aussi, je suis d'accord avec vous que c'est probablement Pietrangelo qui va le gagner dans le sens où, de la manière dont les Blues jouent en ce moment, je vois pas pourquoi ils gagneraient pas parce que offensivement toute l'équipe est là. Et donc, quand la rondelle se porte en attaque, il y a les chances de marquer, il y a les chances de prendre les tirs. Les chances, écoute, il est excellent défensivement aussi, il bloque beaucoup de tirs. Donc, honnêtement, je crois que c'est lui qui va remporter à moins d'une blessure ou d'un gros, un gros problème du côté des Blues. Mais j'ai été avec Carlson parce que, j'ai l'impression que de son côté, on va vouloir remonter la pente. Et, parce que, comme je l'ai dit, il y a une saison qui a été un petit peu en dépit des attentes la saison dernière. Il avait été blessé aussi, donc ouais. Je pense que ça joue en sa faveur. Et du moins, avec mon cœur, je souhaite que ça soit lui qui le gagne parce que je pense qu'il a prouvé depuis un bon moment que si c'est pas le meilleur défenseur, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue.
Il faut dire ce qui fait mal peut-être à Carlson dans cette course-là en début de saison, c'est qu'il a été blessé quelques matchs, donc il a dû s'absenter en début de saison. Donc, Éloi, justement, comme on le précisait, tu vas aller du côté de Pietrangelo.
En effet. Donc, Pietrangelo qui a déjà 20 points cette saison, plus 11. Donc, l'offensive, c'est pas un problème pour lui, mais c'est un gars qui sait également jouer en défensive beaucoup. Il a un temps de glace moyen de 26 minutes 7, ce qui est absolument énorme. Il peut bloquer des tirs également, puis il est utilisé à toutes les unités par les Blues. Donc, je parlais de Schwartz tantôt, ce qui est un joueur complet, mais Pietrangelo, c'est vraiment le cœur arrière de cette équipe-là qui a une fiche de 16-5-1 en ce moment. Donc, ça fait aucun doute pour moi que Pietrangelo, c'est en ce moment le meilleur défenseur dans toute la Ligue nationale.
Même chose de ton côté, Hugo.
Ouais, effectivement, Pietrangelo qui est le meilleur candidat au Trophée Norris. Éloi, t'as pas mal tout dit à son égard.
M'excuse. Qui peut
être... Non, c'est correct. C'est correct, voyons. Mais c'est ça qui peut être utilisé sur tous les aspects du jeu. Encore une fois, est un très bon leader. C'est pas pour rien qu'il y a le C sur son chandail. Mais Simon, j'avoue qu'on doit pas nier Rick Carlson. On le sait, l'année passée, en séries éliminatoires, les Sénateurs qui avaient une liste de blessés qui commençait à augmenter au fur et à mesure que les séries avançaient, se fiaient beaucoup sur le jeu de Carlson pour déterminer s'il allait remporter ou perdre le match. Alors oui, effectivement, il a raté quelques matchs en début de saison. Il va falloir le surveiller, mais pour ma part, c'est encore Alex Pietrangelo.
Et que dire de Brett Burns, qui déçoit sincèrement en début de saison.
Oui, exact.
A signé un très gros contrat la saison dernière. Un autre contrat qui risque de faire mal aux Sharks, sachant qu'il est au-dessus de la trentaine.
Oui, ben je pense pas, rapidement, je pense pas qu'on doit mettre le blâme uniquement sur ses épaules parce que c'est un problème d'équipe, les Sharks en ce moment, qui sont pas en bonne position. C'est vraiment l'équipe qui est, je dirais, catastrophique parce que depuis les trois dernières années, ils sont toujours parmi les meilleurs, toujours leur place en série. On les questionne plus, en fait, les Sharks, depuis les trois dernières années. C'est la première année depuis les trois dernières qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on remanie l'équipe? Est-ce qu'on fait des transactions? Là, on a échangé Patrick Marleau. C'est sûr que ça vient jouer, du moins jusqu'à maintenant, ça vient jouer contre les Sharks.
Oui, la perte.
Donc, je pense que encore là, c'est un problème d'équipe et Brent Burns en écope malgré son incroyable talent.
Ouais. Et là, pour le trophée Vezina, je crois qu'on s'entend tous sur le fait que Sergei Bobrovsky connaît un incroyable début de saison, pourrait justement faire le doublé, donc gagner même après l'avoir emporté la saison dernière. Ce serait son troisième quand même en carrière. Ouais. Par contre, pensez-vous que des gardiens de but comme Corey Crawford, qui se démarque quand même bien à Chicago malgré le faible début de saison de son équipe, ainsi qu'Andrei Vasilevskiy du côté de Tampa Bay, qui lui, bon, peut-être profite des succès offensifs, pensez-vous que c'est des candidats intéressants pour le trophée Vezina?
Moi, je pense que Vasilevskiy, du moins dans le futur, c'est le candidat, je dirais, le plus intéressant. Encore là, du côté de Tampa, si on a des gros contrats, comme on l'a dit depuis le début, s'il y a des gros contrats, parce qu'on en a qui vont peser sur la balance, là, qu'on va devoir re-signer, et que l'offensive, si les prochaines années se transforment de façon majeure, c'est là qu'on va voir s'il est aussi bon qu'il est. Parce que là, en ce moment, il est testé, mais à quel point il est testé parce qu'on a la meilleure offensive
exact.
De la Ligue.
Donc, selon toi, en fait, il ne mérite pas tout de suite d'avoir...
Il ne mérite pas tout de suite. Je pense que, justement, vu la qualité offensive qu'on a à l'avant, il est pas si sollicité que ça pendant les rencontres et que ça va être quand l'équipe va être au plus bas que lui va devoir jaillir et peut-être sauver et voler des matchs pour se prouver.
Et il faut pas oublier que pas plus tard que la semaine dernière, il s'enlignait pour une saison de 50 victoires.
Ouais.
Ça serait une première dans la Ligue nationale.
Exactement, okay. Exactement. Faut pas, comme tu l'as dit, Nicolas, faut pas enlever le fait que Corey Crawford a quand même une très bonne saison. On parle d'une moyenne de buts alloués de 2.23, un pourcentage d'arrêt de 932. C'est quand même très bon vu la position des Blackhawks de Chicago. Ouais. Encore une fois, on parlait du Trophy Hart. Là, je vais revenir sur ta question. les Blue Jackets de Columbus sont dans le top 5 de la Ligue en ce moment. Et c'est principalement à cause de Sergei Bobrovsky. Là. Si je prends sa fiche, là, on parle d'une moyenne de buts alloués de 1,91, un pourcentage d'arrêt de 936, 13 victoires, 4 défaites, une défaite en temps supplémentaire. C'est assez incroyable pour le gardien russe. Probablement une de ses meilleures saisons en carrière pour l'instant. L'année passée, a connu une saison exceptionnelle aussi. C'est pour ça qu'il a remporté le Vezina. Mais pourrait être peut-être candidat au Trophée Hart si les succès des Blue Jackets continuent.
Oui, mais c'est ça. Bobrovsky est exceptionnel carrément. Mais mon deuxième choix, ça serait Martin Jones des Sharks. Ouais. Pas une bonne saison à San Jose pour l'équipe, mais lui garde le fort carrément. Il a une moyenne 929, puis seulement 2,03 buts alloués. Donc, il n'y a carrément rien devant lui. Mais sinon, Martin Jones serait
considérant le pauvre rapport offensif de l'équipe.
Ses statistiques sont presque aussi bonnes que celles de Bobrovsky individuellement. Puis, c'est ça, il y a une piètre défensive devant lui, une piètre offensive devant lui aussi. Donc, ça ne l'aide pas. Mais Martin Jones a une saison vraiment qui passe sous le radar, mais presque aussi bonne que Bobrovsky.
On parle de Bobrovsky. Je tiens à préciser qu'il était dans l'organisation des Flyers, qui se cherche toujours un gardien de but partout aujourd'hui.
C'est l'histoire des Flyers, oui.
Oui.
Votre Jack Adams pour l'année jusqu'à maintenant?
Ouais. Difficile. Au début, quand tu as décidé d'envoyer le fichier, j'avais plusieurs candidats en tête. Je crois que pour le rebondissement de l'équipe cette saison, je vais aller avec Paul Maurice. Parce que les Jets de Winnipeg ont vraiment une bonne saison présentement.
Troisième au classement.
Exact. Ouais. Ils sont troisième au classement. Tous les joueurs jouent avec une collectivité que la plupart des équipes de la LNH recherchent. Paul Maurice fait du très bon boulot pour diriger le tout. Et clairement, ça se voit. Alors, c'est sûr et certain que, dans mon livre à moi, Paul Maurice est le meilleur candidat pour le Jack Adams.
Et il est pas assez proche, en fait, d'avoir été congédié la saison dernière.
Oui,
après un certain passage à vide. De ton côté, Simon, toi, tu y vas du côté de Mike Babcock.
Oui, ben écoute, je vais le dire, je suis un fan de Détroit. Donc, quand il est parti de Détroit, j'ai presque pleuré. Parce que, ben écoute, Babcock, selon moi, c'est un coach qui est extraordinaire. Je trouve que trop souvent on lui donne pas ce qui lui revient et là ben il est en train de revenir dans la liste des meilleurs entraîneurs de la ligue selon moi avec Toronto. C'est sûr qu'évidemment quand tu as le premier choix au repêchage, quand tu as Austin Matthews, bon, ça vient jouer en ta faveur, mais combien de blagues incessantes, là, surtout en tant que fan des Canadiens de Montréal, ici, on a pu entendre de notre côté sur les Leafs dans les dernières années parce qu'il était toujours en bas de classement. Il n'y avait rien qui se passait offensivement, défensivement. On n'a pas de gardien. Là, on s'est reconstruit justement dans les filets. Ça l'a aidé. Mais je pense que, de manière collective, il a fait en sorte que tous les jeunes qui sont arrivés, Matthews, Marner, Nylander, soient capables de fusionner ensemble et de créer quelque chose du moins offensivement. Aussi défensivement avec Morgan Riley, il ne faut pas l'oublier, celui-là qui, selon moi, je pense que Morgan Riley n'a pas encore atteint le pic de sa carrière. Je pense que d'ici 2 ans, va l'atteindre. Mais donc, je trouve que Babcock fait de l'excellent travail pour justement fusionner ses joueurs et prône la collectivité et ça marche jusqu'à maintenant.
Et tu parles de collectif, je crois que c'est un peu la raison de ton choix et loi. C'est avec Gérard Gallant.
Oui, moi je vais prendre, c'est ça, c'est un scientifique Gérard Gallant parce qu'il a vraiment créé de la chimie à Vegas. Il a pris 23 joueurs qui ne se connaissaient pas, qui avaient joué dans des équipes différentes puis qui avaient été rejetés par leurs équipes respectives. Puis il a vraiment construit un noyau assez incroyable à Vegas. On est premier de la division avec 27 points en 20 matchs. Puis Gallant, justement, il comprend bien c'est quoi se faire rejeter parce qu'on se souvient que les Panthers l'ont jeté dehors carrément après un match, pas de taxi, rien. Ouais, là, ils l'ont jeté dehors avec ses valises. Donc Gallant comprend bien ses joueurs, il les a vraiment bien mis ensemble, il fait des bons trios, puis ça a totalement marché de son côté.
Et je suis certain qu'à Montréal en ce moment, il y en a beaucoup qui envieraient le fait d'avoir Gérard Gallant parce qu'il était disponible pour le Canadien.
Mais tu parles français?
Est-ce qu'il parle français? Non. Mais oui.
On va passer au segment vert et rouge, si vous me le permettez. Donc,
je te le permets.
L'an dernier, au même moment, en fait, 8 équipes de cette année n'étaient pas en série l'année dernière. Croyez-vous que 8 équipes ou plus, en fait, je vais y aller plutôt avec une affirmation, 8 équipes ou plus de celles qui n'étaient pas en série de l'an dernier vont l'être cette année?
Je vais aller avec rouge. Ça peut surprendre. On est encore au cœur de la saison. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se remettre en place. Il y a beaucoup d'équipes qui sont parties en canon. Peut-être pas 8. Selon moi, peut-être 4 ou 5 équipes, mais pas 8.
Ton côté, Éloi?
Moi, je vais aller avec vert. Parce qu'on a des équipes qui ont des noyaux de très jeunes joueurs. On parle des Islanders, tout ça. C'est des équipes qui ont fait les séries parfois dans les dernières années, puis qui sont sur des lancers cette année. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'ils ne feraient pas les séries éliminatoires cette saison? Ils sont bien partis. Puis normalement, quand on arrive à l'action de grâce, la plupart des équipes qui sont en série restent en série. C'est rare qu'on voit des remontées qui arrivent. Je sais que le classement est serré, mais il y a des équipes qui s'essoufflent, comme les Blackhawks, tout ça. Puis je pense que ce serait l'année logique où est-ce qu'on voit un changement de garde carrément.
Ton côté, Simon?
De mon côté, écoute, je vais suivre Hugo dans ma réponse. Je vais y aller avec rouge parce que je regarde le classement en ce moment là, entre la troisième position et jusqu'à la dixième position là, jusqu'aux Capitals. En fait, on n'a tellement pas d'écart dans les points. On a seulement 5 points d'écart. Donc, c'est 2 matchs et demi, si vous voulez, pour se reprendre pour beaucoup d'équipes et de revenir dans les tops. Donc, moi, je pense que je prends par exemple Washington et Pittsburgh qui ont pas les meilleures saisons escomptées, tu l'as dit tantôt avec Capitals. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent surprendre justement à ce niveau-là parce que je pense qu'il y a encore trop tôt dans la saison pour se prononcer. Là, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et par le fait même, est-ce qu'on pourrait pas voir une équipe de top en ce moment? Je veux dire, je sais que c'est dur à imaginer, mais est-ce qu'on pourrait pas voir une équipe de top complètement chutée?
Comme le Canadien.
Le Canadien, je dis le Canadien. Je pense pas que ça va arriver. Mais une équipe qui se retrouve dans la même position du Canadien remontée. Mais écoute, je pense que 8... En fait, je pense que c'est seulement le nombre d'équipes avec lesquelles j'ai un problème. Je pense que 8, c'est trop. Dans le sens où, justement, c'est ça. Tout peut encore arriver. Tous les pions ne sont pas scellés. Là, tout n'est pas encore joué dans la saison.
Moi, je te dirais, je vais utiliser ton argument contre contre-argument. Donc, moi, je vais y aller avec vert. Je crois que plus de 8 équipes vont réussir à se qualifier malgré qu'ils n'étaient pas l'an passé. Tu dis que, justement, plusieurs équipes peuvent encore remonter qui sont en dehors des séries présentement. Je regarde les équipes. Les Hurricanes de Caroline n'étaient pas en série l'année dernière, mais sont tout près des séries. Donc, ça va juste rajouter une nouvelle équipe qui n'était pas présente. L'Avalanche du Colorado, le Wild du Minnesota, les Ducks d'Anaheim qui connaissent présentement une mauvaise saison. C'est sûr que les Ducks d'Anaheim peuvent justement contredire mon argument à ce moment-là, mais les Stars sont pas très loin non plus. Donc, je crois que selon moi, plusieurs équipes qui n'étaient pas en série l'an dernier peuvent revenir cette année. Donc,
mais
ça pourrait surprendre.
Encore une fois, c'est que c'est tellement serré à ce niveau-là. Comme tu dis, c'est un point qui peut faire qu'une équipe.
Ah, une victoire peut faire la différence.
L'autre ne l'est pas, donc.
Présentement, les Sharks de San Jose, qui sont 8e dans l'Ouest, donc qui ont la dernière place qui donne accès aux séries, ont 23 points. Et je vous dirais par la suite, les Stars de Dallas, qui sont 5 rangs plus loin, sont également à 23 points. Mm-hmm. C'est excessivement serré. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer. Sinon, côté trophée individuel, Steven Stamkos remportera le Art Ross.
S'il ne se blesse pas, s'il ne se blesse pas, vert,
j'aime
sinon ça va être un rouge. Non, mais c'est vrai, Steven Stamkos qui, Éloi, tu l'as dit, n'a pas eu beaucoup de blessures dans sa carrière, a eu 2 blessures importantes, mais est tout de même de plus en plus en porcelaine, alors il va falloir faire attention à ce joueur. Mais s'il continue, s'il poursuit sa lancée, en fait, ça devrait être définitif là, qu'il remporte le trophée Art Ross.
Simon?
Même chose qu'Hugo, je vais dire vert, encore une fois, s'il ne se blesse pas. parce que pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tantôt, encore une fois, il est dominant dans la Ligue en ce moment et de loin pour sa production offensive. Et c'est ce que tu veux de ton Steven Stamkos quand tu l'as, c'est qu'il produise offensivement. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, justement, encore une fois, s'il ne se blesse pas.
Et là, de ton côté, je crois que tu vas avec le vert aussi.
On y va avec le vert aussi parce qu'il y a tellement de points en ce moment. Puis, il y a beaucoup de mentions d'aide, mais on sait que Stamkos a un très, très bon tir. Donc, s'il se met à marquer davantage, il va marquer encore plus de points au total. Donc, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui peut le ralentir à avoir une blessure. Là.
Moi, je dirais, je vais être le seul qui va s'opposer ensemble.
Le mouton noir.
Je vais aller du côté de rouge. La seule raison, en fait, c'est qu'il reste encore le 3/4 de la saison. On voit souvent des joueurs que ça prend peut-être un peu de temps avant de se lancer, vraiment de connaître des bonnes saisons. Je vais nommer Max Pacioretty. Ce sera sûrement pas le cas cette année, mais au cours des dernières saisons, c'était plutôt long avant qu'il compte plusieurs buts. Finalement, il atteignait toujours la trentaine quand même. Donc, selon moi, il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent faire ça, justement, exploser plus tard dans la saison. Et évidemment, Steven Stamkos, je ne crois pas qu'il va pouvoir garder un rythme aussi haut tout au long de l'année. On sait que dans les dernières années, le Lightning ont eu des petites chutes après le temps des fêtes. Bon, il y a eu quelques blessures qui ont nuit à l'équipe. Mais selon moi, Steven Stamkos est encore rattrapable, surtout que l'écart s'est un petit peu rétréci depuis quelques matchs.
Ben, c'est sûr que moi, je pense, pour compléter ta réponse, en fait, c'est qu'en ce moment, dans la Ligue, on a un point de différence entre Tampa Bay et les Blues.
Oui.
À ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas justement un joueur des Blues qui peut s'illustrer pendant que Tampa chute 2-3 rangs en dessous? Parce que, selon moi, je vois pas pourquoi on perdrait la lancée qu'on a là. Mais le seul petit moment où on pourrait crouler de 2-3 positions au classement, ça peut être
les blessures.
Les blessures, et ça peut être l'affaire qui va permettre aux Blues de possiblement continuer sur la lancée pendant toute la saison. Ce qui fait qu'un joueur des Blues peut dépasser Stamkos dans la course.
Ouais, dans la même lignée, Nikita Kucherov remportera le Maurice Richard pour le meilleur buteur de la Ligue. Éloi?
Je vais aller avec Vert parce que Kucherov, il a déjà 17 buts, donc en 21 matchs, c'est presque un but par match, ce qui est pas mal du jamais vu à notre époque là, comme en termes de statistiques. Tavares est proche. Ovechkin est proche, mais Ovechkin ralentit parce qu'il vieillit puis il ralentit. Là. mais donc, Kucherov est quand même loin devant en termes de buts. C'est pas facile de marquer 2 buts dans la Ligue nationale. Donc, avoir 2 buts d'avance sur Tavares, ça l'aide déjà beaucoup. Je pense qu'il va finir en premier.
Hugo, de ton côté?
Oui, moi aussi, c'est Vert. Sauf qu'il est un peu en contradiction, Éloi. Je vais quand même faire attention à Alexander Ovechkin.
Ah,
oui. Il a quand même 14 buts. Encore une fois, oui, en ralentissement, je suis en accord avec toi, mais quand même capable de marquer sur les avantages numériques et a quand même un tir puissant néanmoins. Alors, c'est sûr et certain que sa production pourrait soit rester stable, soit diminuer. Avec Ovechkin, on ne le sait pas. Alors, moi, je divers à cette affirmation, mais je fais attention à Ovechkin.
Moi, je dirais de mon côté, je vais y aller aussi dans le vert. Parce que je crois, justement, un peu comme Éloi, que Alexander Ovechkin a ralenti dans les quelques années. On est présentement, je crois qu'on est beaucoup faussé par son 6 buts en 2 matchs en commençant la saison. On enlève ce 6 buts-là, on tombe à 8 buts pour le reste de la saison. Donc, selon moi, il ne rattrapera pas. John Tavares aussi, ça va dépendre des Islanders si on poursuit sur une bonne lancée.
Ben, ils sont en bonne position, du moins.
Ils sont en bonne position. Ouais, donc, ça va dépendre si on est capable de poursuivre sur la lancée. Il ne faut pas l'oublier. Tavares, son contrat vient à échéance cette année. Est-ce qu'il sera échangé à la date limite? Je ne croirais pas. Je crois qu'on va essayer. On va tout faire pour le garder du côté des Islanders. Mais s'il est échangé, ça peut complètement changer sa saison aussi. Mm-hmm. Donc, selon moi, ça, c'est un autre facteur qui peut jouer. De ton côté, Simon.
Ben, je continue la tendance. J'y vais avec Vermont aussi. En fait, Kucherov, si je ne me trompe pas, il a établi. Je ne sais pas si c'est un record, où il a égalé le record de celui ayant marqué le plus de buts consécutifs en début de saison. Écoutez, ça a pris jusqu'au 7e match avant qu'il ne marque pas. Non, en fait, c'est au 8e match, pardon.
Il y a le record pour le Lightning, mais pas pour la Ligue nationale.
Oui,
t'as raison. Pour le Lightning, c'est celui qui a marqué le plus de fois consécutif en début de saison. Il avait déjà, en fait, si je ne me trompe pas, 8 buts en 7 matchs pour les 7 premiers matchs de la saison. Avec un Stamkos en santé à ses côtés, qui, on en a parlé tantôt, fait aussi beaucoup de mentions d'assistance qui le permettent de trouver les fâches chez les gardiens.
Les deux se complètent
parfaitement. Donc, je vois pas pourquoi la tendance changerait à ce niveau-là.
Je voudrais, pour conclure, les gars, une petite question surprise rapidement.
Oh.
Oh.
Vos deux équipes que vous voyez en finale de la Coupe Stanley à la fin de la saison, si on pense en date d'aujourd'hui.
Écoute, moi, j'y vais définitivement avec la ligne de Tampa Bay. Je verrais pas pourquoi les Blues de Saint-Louis s'arrêteraient non plus. Alors, définitivement, ces deux clubs-là, ça serait le fun pour les Blues de Saint-Louis de remporter leur première Coupe Stanley depuis leur arrivée en Ligue nationale en 1967. Alors, pour moi, ça serait Lightning Blues.
Ton côté, Éloi?
Lightning Predators, pour moi. Je pense que Nashville va revenir cette année. Ils ont une équipe qui est construite pour les séries. Mais pour la saison aussi, ils sont très, très bons. Là. Mais en série, ils sont quelque chose de spécial à voir jouer. Ils ont balayé Chicago l'an passé. Je pense que cette année, c'est leur année.
Ton côté, Simon?
Même chose pour moi, Lightning Blues. Parce que j'ai l'impression, bien évidemment, la Ligue nationale, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus on cherche à... Parce que je veux pas, la Ligue nationale, en fait, c'est un peu un spectacle. Donc, on cherche à miser beaucoup plus sur l'offensive que la défensive. Et de ces deux, du côté de ces deux équipes-là, c'est des machines de production offensive. Et c'est ça que je pense qui va, qui va amener ces deux équipes-là à se distancier des autres et à prendre leur place, c'est parce que la Ligue est taxée sur l'offensive et sur le nombre de points de but qu'on fait. Et c'est les deux meilleurs à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça va être eux qui vont s'affronter en finale de Coupe Stanley.
Mon côté, je vais aller aussi avec les Blues. Par contre, dans l'Est, je vais aller du côté des Blue Jackets. Je crois que
justement, j'ai fait y aller avec eux aussi.
Ils arrivent à un stade justement où bon, l'an dernier, ils ont pris beaucoup d'expérience, justement. Beaucoup de jeunes joueurs, je crois, qui pourraient surprendre cette année. Que ce soit les Blue Jackets ou non, je crois pas que le Lightning va se rendre en finale. D'après moi, souvent, on le voit là, en saison, une équipe qui domine trop en série, justement, va s'écraser souvent. On l'a vu, bon, les Capitals, c'est peut-être pour d'autres raisons aussi, mais ça a été le cas dans les dernières années. Donc, selon moi, Columbus contre les Blues. Les Blues ont vraiment tout, selon moi, pour l'emporter. Très bonne défensive, un bon gardien en Jake Allen, qui fait le travail aussi.
Oui, il fait le travail.
Et également un très bon personnel d'entraîneur et une bonne offensive. Donc, selon moi, ils ont tout aussi pour l'emporter. Donc, je vous remercie, les gars, pour cette superbe émission, en fait,
c'est
premier quart de la saison. Donc, merci à vous, en fait, auditeurs de cette émission. Je vous invite à aller sur notre page Facebook sur leban.ca ou même de nous suivre sur notre compte Twitter au QG Général, au Quartier Général, au QG, oui. et également sur le compte Twitter de surleban.ca. Également, vous pouvez aller visiter le site web et on vous souhaite une bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Bonne semaine.